dans l'actualité des idées aujourd'hui, Goulag, un chapitre occulté de l'histoire soviétique. Mardi prochain sera diffusé sur Arte un documentaire en trois parties qui montre la fabrique du système concentrationnaire en Union soviétique. De ses origines en 1917-18 jusqu'à son démantèlement à la fin des années 50. L'histoire des ZEC, ces détenus de droit commun ou prisonniers politiques, intellectuels ou paysans, hommes et femmes, envoyés au Goulag et que le régime a fait travailler jusqu'à l'épuisement.
Neftali Frenkel, qui avait inventé au Solovki la ration alimentaire indexée sur le travail fourni, dirige les travaux du canal. Le creusement du canal Baltique-Mer Blanche inaugure les chantiers pharaoniques de construction d'infrastructures. Voies ferrées, canaux, routes, aérodromes, centrales hydroélectriques. Sur chacun desquels vont peiner des centaines de milliers de détenus. C'est sur le chantier du BBK qu'apparaît le mot ZEC, abréviation de détenu du canal, qui désignera bientôt tous les prisonniers du Goulag.
Avec nous pour en parler, Patrick Rotman, réalisateur de cette série, Goulag, une histoire soviétique, co-écrite avec Nicolas Werth et François Aimé, accompagné d'un livre d'ailleurs, Au Seuil. Bonjour Patrick Rotman.
Bonjour.
Comment est né le projet de raconter et d'expliquer cette histoire, toute l'histoire du Goulag ?
Vous savez, Nicolas Werth était le grand historien spécialiste de... à la fois l'histoire de l'URSS et spécialiste du Goulag, sur lequel il travaille sur ses archives depuis très longtemps. Donc en fait, c'est lui qui a eu l'idée de dire il n'existe pas de film qui retrace toute cette histoire du début à la fin, qui montre ce qu'a été le Goulag, sa fonction à la fois de punition et sa fonction économique. Donc il m'a là proposé avec François Aimé et j'ai dit oui, évidemment, tout de suite.
Il n'existe pas de film qui raconte toute cette histoire en France ou dans le monde ?
En tout cas en France, oui. Il y a eu des films sur le Goulag dans les années 80 à la BBC, mais aucun n'avait en fait cette ambition qu'on a eue de raconter la totalité de cette histoire. Bon, alors même en 3 heures, et c'est très compliqué de raconter 40 ans de cette histoire tragique, de ces complexes, de ces 500 complexes concentrationnaires, ce qui veut dire des milliers et des milliers de camps sur des milliers et des milliers de kilomètres où sont passés environ 20 à 25 millions de personnes. Donc c'est une entreprise totalement démesurée. Il aurait fallu en fait des heures et des heures de plus pour raconter tout. Donc il a fallu évidemment faire des choix, mais l'ambition, c'était à la fois de raconter cette histoire et aussi de raconter ce qui se passait au Goulag. Il y a toute une partie plus thématique sur la vie quotidienne au Goulag, comment ça fonctionnait, les femmes au Goulag, les enfants au Goulag, des choses qui sont d'ailleurs très très peu connues.
Voilà, il y a le système et le quotidien. Il existait déjà des livres d'histoire, mais surtout des livres de témoignages écrits par d'anciens détenus, dont le plus célèbre, Alexandre Solzhenitsyn, avec son archipel du Goulag, mais aussi celui du dissident soviétique Viktor Kravchenko. J'ai choisi La Liberté, les récits aussi de la Kolyma de Varlam Chalabov, mais pas de film. Comment passer des écrits à l'image? C'est la question que posait hier soir lors d'une avant-première François Aimé, l'un de vos co-auteurs. Comment passer des écrits à l'image? Comment faire film de cette histoire?
Évidemment, c'est très compliqué parce qu'il y a toutes les images qui existent aujourd'hui sur le Goulag ont été tournées, évidemment, par les autorités soviétiques, policières ou NKVD. Donc, c'était à l'origine des films de propagande. Le sens était, on veut montrer aux citoyens lambda soviétiques à quel point le travail permet de se régénérer. On prend des gens qui sont des délinquants et on en fait des bons citoyens soviétiques par le travail. Donc ils ont tourné ces films de propagande, beaucoup dans les années 30, et qui sont absolument formidables quand on les regarde, parce que c'est, il y a des plans, des travelling, c'est formidablement cadré, et surtout on voit l'énormité, le gigantisme de ces travaux. Et ce qu'on voit aussi, mais là il faut bien regarder, et en fait j'ai essayé de retourner ces images dans la réalisation du film, on voit aussi les visages de ces femmes et de ces hommes, de ces zecs, comme on les appelle, qui travaillent sur ces chantiers dans des souffrances absolument terribles, avec une mortalité de 10 à 15%. Et dans les films de propagande, alors ils organisent des orchestres, des danses, etc., pour soutenir le moral de ces travailleurs du goulag. Et puis on voit les visages totalement fermés, ces regards totalement désespérés. Bon, voilà. Donc il faut faire avec et utiliser ce qui était des films de propagande pour essayer de montrer la réalité du goulag. Voilà. À part ça, il y a dans le film donc ces images sont assez extraordinaires, c'est absolument fantastique. Mais à part ça, on a évidemment travaillé avec toutes les images des actualités soviétiques pour donner tout le cadre, le contexte historique du film, parce que le film raconte l'histoire du goulag. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire du goulag est intrinsèquement liée à l'histoire de l'URSS, de son système répressif, de son système policier. Et donc, on ne peut pas retracer l'histoire du goulag sans aussi retracer l'histoire de ce qu'a été l'URSS.
L'histoire officielle, hein, aussi.
L'histoire, oui. Et là, il y a des images qui sont là aussi, qui sont assez extraordinaires, que ce soit les loisirs de la nomenclatura sur les bords de la mer Noire, ou sur les congrès du parti, sur le premier cercle autour de Staline, etc., etc. Et enfin, il y a une autre source très très importante dans le film, ce sont les témoignages. Alors, ça, c'est grâce à une association, qui est l'association Mémoriale, qui a été fondé par Sakharov en 1988, sous la perestroïka de Gorbatchev, et que cette association s'est fixée pour but de rassembler tout ce qu'on pouvait garder sur le goulag, et notamment elle a interviewé des survivants, enfin qui étaient à l'époque des survivants. Et aujourd'hui, ils sont évidemment tous morts. Mais ça a donné ce patrimoine formidable de témoignages sur lequel on a travaillé. Nicolas Vert a fait une première sélection parce qu'il parle russe, et moi j'en ai d'une centaine à peu près, et moi j'en ai gardé 32 qui ce qu'on voit tout dans le film, et qui sont des témoignages extraordinaires, qui sont et qui couvrent là aussi toute la période du goulag. Et enfin, il y a
dessins.
Il y a les dessins.
Et des planches de bande dessinée.
Et voilà, donc les dessins, les peintures qui ont été faites par les prisonniers du goulag. Et ces planches dessinées. Il y a des photos clandestines qui ont été prises par des détenus qui ont réussi à fabriquer des appareils photos. Bref, il y a des sources très diverses.
Voilà, presque 3 heures dans ces images d'archives en noir et blanc, on se refait le film de ce système concentrationnaire, des témoignages recueillis par cette association Mémoriale entre la fin des années 80, ça aurait pas été possible avant, et jusqu'au début des années 2000, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Après, aujourd'hui, vous le dites, parce que la plupart des survivants de ces années-là, on parle de l'époque Staline surtout, hein, pas de l'époque qu'a connu le père de Yegor Gran, qui était l'invité de la première partie de l'émission dans les années 60, vous, l'histoire que vous racontez, celle de ce système, court jusqu'à la fin des années 50.
C'est le moment où ce système est massif. C'est là où il y a des millions de citoyens soviétiques qui sont fermés au goulag. En 57-58, ils sont plus que quelques milliers. Donc on passe de 2 800 000 au début des années 50 à quelques centaines dans les années 58. Donc le système du goulag avec ses milliers de camps, il est démantelé à la fin des années 50.
Alors on va revenir à la forme du récit, de la narration que vous avez choisie, Patrick Rothman. Mais d'abord on va raconter cette histoire pour comprendre de quoi on parle. Vous dites quand même juste que cette absence de récit filmé contribue aussi à nourrir le silence et l'oubli sur ce chapitre de l'histoire soviétique. Hein. Cette mémoire du goulag, ce passé enterré, comme vous le dites, pourquoi a-t-il été longtemps occulté alors que, et c'est ça qui est assez incroyable, un adulte sur 6, dites-vous dans le film, a été au goulag dans ces décennies-là, ces décennies noires, hein.
Alors, je pense qu'il faut distinguer entre ce qui se passait en URSS et l'écho ou l'information qu'on avait sur le goulag dans les démocraties occidentales. En URSS, compte tenu du gigantisme géographique, de l'éloignement des camps, vous prenez l'exemple de la Colima, pour aller à la Colima, c'est 2 mois de train de Transsibérien et après 3 à 4 semaines de bateau pour arriver dans une région qui est 3 fois comme la France où il n'y a aucun accès terrestre.
À l'extrême est.
C'est tellement loin, c'est tellement vaste, c'est tellement démentiel. C'est à 10 000 kilomètres de Moscou que, évidemment, c'est l'information dans cette époque-là ne circule pas. Cela dit, il est évident qu'il y a eu des... Au total, avec les villages de peuplement, 26 ou 28 millions de soviétiques qui sont passés par les camps et que un certain nombre ont été libérés et qu'ils racontaient dans les familles. Mais il y a un témoin qui dit très bien dans le film que personne n'écoute. On a, ça, c'est un phénomène tout à fait habituel dans les survivants qui reviennent des camps. Personne ne les écoute. Le problème est différent pour ce qui concerne l'Occident. Qu'est-ce qu'on savait en Occident? Et là, il faut bien constater que très tôt, l'information a circulé. Je montre dans le film un livre qui paraît en 1927 et qui parle du bagne rouge des Solovki, donc, et qui décrit très précisément ce qui se passe dans ce qui a été le laboratoire du goulag. Et pendant des années, il y a eu des dizaines de livres qui sont parus. Mais le déni était tellement puissant. La force, l'influence du mouvement communiste, de son idéologie, de son poids sur les intellectuels après la guerre, fait qu'effectivement, il y a un refus total de voir, d'entendre.
Mais y compris au sein des familles, hein, ça c'est ce dont témoignent les survivants dont les récits ont été captés par cette association mémoriale à la sortie des camps. Il y a eu une envie de dire, une envie de raconter, une envie de crier ce qui s'était passé aussi à la mort de Staline, après la mort de Staline, mais que très vite, une sorte de chape de plomb allait retomber avec Brejnev après 64. Hein.
Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que peut-être un certain nombre d'entre eux voulaient et avaient envie de parler et on ne les écoutait pas. Cela dit, il y a... les écrivains du goulag qui ont laissé des récits évidemment celui de Yeltsin qui est le plus connu, mais par exemple, les récits de la Colima de Chalamov sont extraordinaires. C'est même sur un plan littéraire, c'est un des plus grands livres du XXe siècle. Chalamov, il a fait 17 ans de goulag, dont 14 ans à la Colima. Il a pu publier que dans les années 85-86, si je ne me trompe pas, ses récits de la Colima. Mais grâce à ces écrits, Eugenia Gainsbourg, Solzhenitsyn, Julius Margolin et quelques autres, on savait de l'intérieur, parce que c'était des expériences vécues, ce qui se passait dans le goulag.
Voilà, ces deux titres du livre qui accompagnent le documentaire de l'épilogue, La mémoire mutilée du goulag, le goulag au cinéma, le grand blanc, c'est ce qu'on vient d'évoquer Patrick Rothman. Alors cette histoire, qui étaient-ils ces zecs? Des opposants politiques majoritairement, mais pas seulement, parfois aussi des prisonniers de droit commun. Il y avait tout un des profils sociologiques très très différents. Comment raconter qui étaient ces hommes et ces femmes qui ont été détenus dans ces goulags?
Alors, la population du goulag a évolué avec le temps. Il y a eu des vagues et des moments différents. Au début, le Solovki, ce sont les opposants politiques qui sont là, les socialistes révolutionnaires, les socialistes, etc. Mais à partir du moment où le goulag va devenir une machine économique, où il va y avoir un besoin d'une main-d'œuvre corvéable à merci, inépuisable, parce qu'il faut sans arrêt de nouveaux bras pour faire ces grands travaux qui ont construit les grands travaux du communisme, là, on va prendre à peu près n'importe qui. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des politiques. Mais qu'est-ce qu'un politique? C'est quelqu'un qui est condamné en fonction de l'article 58 du code civil, du code pénal soviétique. Et la définition, c'est avoir mené des activités contre-révolutionnaires. On colle cette étiquette à n'importe qui. Quiconque critique la pluie, le beau temps, le fait qu'il n'y a pas à manger dans le magasin...
est anti-soviétique.
Article 58, voilà. Et donc, ils fournissent à peu près 40-45% de la population du goulag. Mais après la guerre, il y a un autre type de population qui arrive. C'est d'abord toutes les populations qui sont déportées massivement des territoires à l'ouest de l'Union soviétique, qui ont été occupées par la Wehrmacht et réoccupées par l'armée rouge en 45. Là, il y a des déportations massives de populations entières qui vont nourrir, qui vont un flot ininterrompu dans le goulag. Et puis, à partir
de... C'est au fil de la libération des territoires, personnes qui étaient soupçonnées d'avoir collaboré avec l'occupant, aussi.
Que le film raconte et montre avec des témoignages, le NKVD est là tout de suite, et tous ceux qui sont plus ou moins suspects, dont on ne sait trop quoi, sont déportés au goulag. Et puis, après la guerre... Au moment où il y a le plus de monde au goulag, là, c'est le citoyen lambda qui... Il y a beaucoup de femmes qui sont dans une situation économique dramatique. Le moindre chapardage, une pomme, un truc, un étalage, hop, condamné selon une loi inique parée en 1947 au goulag. Et c'est pour ça qu'il y a au goulag, dans les fins des années 40, 25% de la population goulag, ce sont des femmes.
Alors, est-ce qu'elles étaient des détenues comme les autres? Extrait de Goulag, une histoire soviétique diffusée mardi prochain sur Arte.
Dans les camps, les femmes représentent un quart des détenues. Les femmes zec ne bénéficient d'aucun traitement de faveur. Mêmes interrogatoires, mêmes trajets exténuants, mêmes travaux éreintants. Sur les grands chantiers du goulag, les femmes assurent les mêmes tâches pénibles que les hommes.
J'ai été envoyée pour travailler sous la terre. C'était un travail nouveau pour moi. Je devais charger les wagonnets. Il n'y avait pas de chevaux dans les mines, enfin, dans les années dont je parle. C'est plus tard que les chevaux ont fait leur apparition. Et donc, c'était les bagnardes qui, à la place des chevaux, poussaient les wagonnets. Je faisais partie de ces bagnardes.
Voilà, elles étaient une force de travail comme les autres, hein. Et en Absolument. Plus, elles ont subi le fait d'être femmes dans un univers majoritairement masculin.
Ou en elles tout étaient cas, victimes, outre le fait qu'elles travaillaient comme des bêtes, dans des conditions terribles, sanitaires, de fatigue, enfin, qui racontent très bien les témoignages dans le film. Elles étaient évidemment des femmes victimes des gardiens.
Et du bétail sexuel, comme vous le dites.
Bétail sexuel, absolument. Aussi. Donc ça a été une tragique. Et puis, certaines d'entre elles, il y avait des enfants qui naissaient au goulag. Il y avait des maisons d'enfants, ce qui est très très peu connu, avec une mortalité effroyable. Effroyable. Donc dans le film, il y a le témoignage d'une femme qui est née au goulag, qui raconte qu'elle est née au goulag. Bon, elle a survécu à tout ça. Donc ça, ce sont des aspects... tragique, peu connu de l'univers du goulag.
Vous racontez bien dans le film aussi que au-delà des objectifs politiques, de la purge organisée des opposants qui étaient déportés, il y a derrière tout ça aussi des objectifs stratégiques et économiques avec ces camps. Pourquoi ? Qu'est-ce que le système cherchait à faire ou à combler ?
C'est quand même très, très étonnant de constater que le terme même de goulag, qui veut dire...
C'est un acronyme.
Direction centrale des camps, en russe, l'acronyme, né en 1930, au moment où l'URSS de Staline, où Staline s'engage dans cette politique d'industrialisation à outrance, de politique de grands travaux pour bâtir les infrastructures du communisme. Et donc, où est-ce qu'il prend la main-d'œuvre? Il est au goulag. Et pendant toutes les années 30, on le voit dans les images, dans le film, ils vont construire les voies ferrées, ils vont construire les grands canaux, mais dans des conditions terribles, ils grattent la terre avec les mains, comme on le voit dans le film.
Film
de propagande, c'est quand même stupéfiant de voir ce qui se passe. Ils vont faire des recherches minières, c'est-à-dire que la Colima, c'est pourquoi la Colima, c'est parce qu'il y a de l'or, et qu'en quelques années, les milliers et les milliers de zecs qui arrivent vont... produire, c'est la principale production d'or du RSS. Pareil à Vorkuta avec le charbon, etc. Donc en fait, les travailleurs du goulag, les zecs, dans des conditions d'esclaves, de terribles, avec une mortalité effrayante, vont construire les grandes infrastructures dont va se glorifier le régime communiste de Staline. C'était un besoin économique, cette fonction. C'est devenu, dans les années 30, le goulag, une industrie pénitentiaire, où les camps coïncident avec les grands chantiers de ce qu'on veut construire, que ce soit des voies ferrées ou des mines ou des barrages, etc.
Voilà, il y a eu les forçats du canal, les forçats des mines. L'histoire commence, et j'invite les auditeurs à regarder le film, aux îles Solovki, avec un système très particulier qui avait été établi là. Vous l'évoquiez, exploitation de ces gisements, développement de grandes infrastructures pour le pays et souvent à main nue, peuplement aussi de zones désertiques. Qui s'occupait d'administrer ces camps, d'y envoyer? Qui s'occupait de la sélection et de la gestion des goulags sur place? Vous avez cité cet autre acronyme, NKVD.
Ça s'est appelé Tcheka, NKVD, GPU, le nom a changé au fil de l'histoire, des 40 ans, mais disons que c'est les services, comme on disait, les organes en Union soviétique policiers de répression qui dirigeaient les camps. Et il y a eu un personnel colossal, il y a eu des centaines de milliers de gardiens des camps. D'ailleurs qu'on épurait régulièrement.
Oui, c'était le cas du tsar de la Colima.
Le patron de la Colima, le Berzin, après avoir fait travailler comme des bêtes ses esclaves, il va être fusillé dans les grandes purges de 1937. Parce que j'ajoute d'ailleurs que le film s'appelle Goulag, ça raconte l'histoire du Goulag, mais ça raconte plus largement l'histoire du système répressif soviétique. Et notamment ce qu'on a appelé la Grande Terreur, qui est un moment très peu connu dans sa réalité. C'est-à-dire que pendant 16 mois, sur un bout de papier écrit de la main de Staline, qu'on voit dans le film, il y a une circulaire qui est faite par Yejov, donc le patron du NKVD, qui décide d'envoyer à la mort 750 000 citoyens qui sont exécutés, près une parodie de jugement, d'une balle dans la nuque. Cela, c'est 750 000, c'est-à-dire le temps que ça... C'est 1600 exécutions par jour. Ils n'ont pas eu, si j'ose utiliser cette expression, eu la chance d'aller au goulag. Ils sont exécutés sans jugement. Bon, la deuxième colonne...
Et encore, il y a des images.
Alors, ce qui est formidable, c'est que la bureaucratie stalinienne a fait des dossiers sur chacun. Les francs en photo, et donc on voit dans le film cette litanie incroyable de visages avant exécution, qui sont évidemment d'une force émotionnelle terrible. Et cette grande terreur, c'est pour ça que tout est lié. Cette première colonne, ils sont exécutés. La deuxième colonne, ils sont envoyés au goulag. Et le résultat de la grande terreur, c'est qu'il y a plus d'un million en moins d'un an de citoyens soviétiques qui sont envoyés au goulag. Si bien qu'à la veille de la guerre, il n'y a jamais eu autant de monde au goulag. Ça dépasse les 2 millions.
Voilà, on est en 37-38. Cette période dure de grande terreur plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Il y a une expression que j'ai découverte dans votre film, Patrick Rothman, c'est celle de sans-droit au courrier. Qu'est-ce qu'était un sans-droit au courrier?
Voilà, alors quand quelqu'un... Dans ces années de grande terreur, le NKVD venait la nuit, généralement. On a des témoignages de femmes qui racontent comment leurs parents sont arrêtés la nuit, qu'ils ont jamais revus, bien naturellement. Et quand la famille cherche à savoir ce que les arrêtés qui ont disparu sont devenus, on leur répond pas droit au courrier. C'est l'expression qui veut dire qu'ils ont été exécutés. Voilà.
Invité.
Nom de code, pas droit au courrier, exécution.
Invité jusqu'à 13h30, le réalisateur Patrick Rothman à l'occasion de la diffusion sur Arte de Goulag, une histoire soviétique. Ce sera mardi prochain, 3h à partir de 20h50. Une série documentaire coécrite avec Nicolas Vert et François Aimé. France Culture, il est 13h20.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Dans ce film, pour qualifier ce système concentrationnaire, Patrick Rothman, vous parlez d'État dans l'État, au plus fort du système, les goulags quadrillent l'immense territoire soviétique, comme le raconte Alexandre Solzhenitsyn, interrogé sur le titre de son livre « Archipel, archipel du goulag ». C'était en 1976, un document qui n'est pas extrait de votre film, mais qui a été diffusé, ce témoignage, dans les dossiers de l'écran sur Antenne 2.
Les camps étaient essaimés sur toute l'étendue de l'Union soviétique et formés de petits îlots et parfois de grands. Tout ça ensemble, on ne peut pas se représenter autrement, on ne peut pas trouver d'autres métaphores que l'archipel. Ils sont séparés de même, ils sont séparés comme un autre par un autre milieu. Et ces îlots, dans leur multitude, composent l'archipel. J'ai appris qu'il y a une instruction à la radio soviétique de cesser d'utiliser le mot archipel, même dans une émission géographique. Et ce mot qui est universellement connu est maintenant interdit. Et maintenant, quand il faut parler d'un archipel, on dit un groupe d'îles en Russie.
Voilà les mots interdits. Celui de Goulag, il l'a été aussi à un moment de l'histoire soviétique. Pardon. C'est un mot qu'on ne prononçait pas, le mot goulag.
Oui, le goulag, il fait son apparition la première fois dans un rapport fait justement par un Français, ancien David Rousset, déporté à Buchenwald, qui crée une commission d'enquête sur les camps soviétiques en 1949-50, et il utilise le mot goulag. Mais ce que dit, quand on voit les cartes des camps, que j'ai fait faire dans le film, qui sont très très belles, et qu'on voit aussi dans le livre, qu'on a reproduit dans le livre, on voit que ce sont des métastases. Ça couvre la totalité du territoire. C'est incroyable. Le générique du film, Goulag, on voit toutes ces métastases, ces petits points noirs qui, en fait, couvrent la totalité du territoire, qui est totalement imbriqué dans l'Union soviétique.
Ce qui est passionnant, c'est que cette série documentaire, elle est donc, on le disait, quasiment intégralement composée d'images d'archives tournées par les services de la propagande, souvent. Pourquoi ? Pour montrer le génie de Staline et l'audace soviétique, pour glorifier aussi ces camps de rééducation par le travail. Vous les avez retrouvées où, toutes ces images ? Elles sont archivées, stockées où ? On est dans les secrets de fabrique, là.
Une partie de ce travail et d'archivage est fait par cette association mémoriale. Par ailleurs, il y en a un certain nombre aussi qui sont dans ce qu'on appelle les actualités soviétiques, qui courent sur 40 ans, dans lesquelles les documentalistes ont été pêchés pour retrouver ces images, notamment tout ce qui est les grandes inauguration par Staline de ses grands travaux. On le voit sur ses bateaux et en costume blanc en train de passer au milieu des aigles qui l'applaudissent avec un fusil dans le dos. Voilà, ces images, les sources sont différentes, mais elles sont pas non plus très compliquées à trouver.
La guerre sans nom sur la guerre d'Algérie en 92, mai 68, le printemps de Prague, le mur de Berlin. Vous êtes, vous, Patrick Rothman, un spécialiste aussi du documentaire historique, le récit sur des images d'archives. Cette écriture, vous l'avez expérimentée très tôt et dès les années 90 aussi avec l'émission Les brûlures de l'histoire que vous avez créée et pensée. Vous n'avez pas pensé pour une série comme le Goulag, cette série documentaire à jouer le jeu de la reconstitution. Ça, c'est quelque chose, une écriture que vous n'aimez pas comme réalisateur.
Non, je déteste ça, la reconstitution. Je n'ai jamais rien vu de convaincant. Et je trouve surtout que le mélange d'images réelles, on voit ces, imaginez là que on voit ces images, on voit ces malheureux travailler dans le goulag, dans le temps froid, la tempête, par moins 50, et de faire derrière une reconstitution avec des comédiens qui joueraient ça, pour moi c'est inconcevable.
Aujourd'hui, vous vous servez de ces images de propagande pour raconter la Terreur rouge. Vous faites dire à ces images tout autre chose que ce qu'elles disaient ou ce qu'on a voulu leur faire dire.
Oui, mais il y a aussi les témoignages qui les contredisent.
Ce qui n'est pas sans rappeler quand même, et je voulais vous la refaire entendre, vous faire entendre pour ceux qui ne la connaissent pas, cette célèbre séquence de Lettres de Sibérie de Chris Marker, où le réalisateur ouvre la réflexion sur la correspondance entre texte et image à travers la même analyse d'un plan qu'il commande trois fois, différemment, élogieux, critique et enfin neutre.
En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakout, je me demandais franchement à qui elle ferait plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne serait traité de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Yakoutsk, capitale de la République socialiste soviétique de Yakoutie, est une ville moderne, où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Yakoutie un pays où il fait bon vivre. Ou bien, Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sans, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs hymnes, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant asiate, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement, à Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une Zim, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin.
Voilà, Chris Marker dans ce film nous écrit d'un pays lointain, pour reprendre les mots d'Henri Michaud. Il a profité d'une commande pour aller découvrir la Yakoutie et y tourner ses images et raconter cette terre inconnue. On se rend compte de la puissance du langage et de la musique qui oriente le regard et dit à l'œil ce qu'il doit voir. Et on le voit dans votre série documentaire quand vous nous dites « Attention, regardez les visages de ces détenus, ne regardez pas ce qu'on veut nous montrer, la joie, le bonheur, la fête, mais regardez la tête, le visage de ces hommes, leur souffrance. » Ces représentations, elles ne sont jamais neutres, Patrick Reutemann. Vous assumez une part de subjectivité, y compris dans un documentaire historique comme celui-ci.
Bien sûr, je pense qu'il faut évidemment beaucoup d'honnêteté sur les faits, les chiffres, etc. Mais la réalité, c'est qu'une image d'archive, comme l'explique très bien Chris Marker, vous lui faites dire ce que vous voulez. Il y a un exemple très célèbre, c'est le défilé sur les Champs-Élysées de Gaulle le 26 août 1944, avec 2 millions de Parisiens qui sont là, qui l'acclament. Et puis il y a une fusillade, il y a un avion qui passe, etc. Les gens se couchent. Il y a le commentaire fait par les Allemands et le commentaire fait par les Anglais. Ben, c'est deux événements complètement différents. Pourtant, ce sont les mêmes images. Donc, vous pouvez effectivement leur faire dire ce dont vous avez envie. Ben, il y a la subjectivité, c'est que c'est moi, Patrick Reutemann, qui... Comment j'appréhende cette histoire ?
Oui, vous aussi, le fils de résistant, vous, l'ancien étudiant trotskiste, pas seulement parce que vous êtes né en 49, on voit cette histoire soviétique, elle vous a touché de près quand même.
C'est quand même l'histoire du communisme, disons. Pour moi, c'est une traînée rouge, tous les sens du mot, qui a marqué au fer rouge le 20e siècle. Donc pour les gens de ma génération, c'était le rapport au communisme, la réflexion sur le communisme, que représenter le communisme a été absolument décisif. Je pense qu'aujourd'hui on a changé de siècle et tout le monde s'en bat l'œil. Mais évidemment, ce qu'a représenté le communisme, j'ai essayé d'ailleurs dans un film qui s'appelle La foi du siècle, d'essayer de comprendre pourquoi le communisme, ce système totalitaire, abject par bien des aspects, responsable de la mort de millions de gens, avait pu attirer tant de gens sincères qui ont cru. Voilà. Et donc, cette question reste ouverte.
Avec une première partie très didactique quand même, parce que l'enjeu, c'est aussi de savoir comment raconter cette histoire à ceux qui ne l'ont pas vécu. Pour paraphraser le titre d'un de vos livres co-signé avec Laurence de Villers sur mai 68, comment faire que cette histoire leur parle encore. Merci beaucoup à vous, Patrick Reutemann.
Merci.
Goulag, une histoire soviétique, sera diffusée sur Arte le 11 février prochain et disponible sur arte.tv jusqu'au 10 avril. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la programmation Bruno Barada, Auriane Delacroix et Henri Leblanc, à la préparation Laura Dutèche-Pérez avec Philomène Vuillard et Marceau Vassy, à la réalisation Éric Lancien avec Adèle Caglard. Très bel après-midi sur France Culture.